1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout. Vous écoutez Canal B. On passera une heure ensemble, si vous le voulez, 17h-18h. Ça, c'est pour la première diffusion. C'est rediffusé du mardi au samedi matin de 9h à 10h et c'est réécoutable. Et vous retrouvez la playlist sur canalb.fr. Aujourd'hui, on parlera avec Nicolas Philly, directeur de La Paillette, théâtre et MJC, qui organise la première édition du Festival des médias indés les 11 et 12 avril prochains. Histoire de soutenir la presse indépendante face à la concentration des médias et puis donner au public un espace pour découvrir, comprendre et soutenir les médias indépendants, garant d'une information libre et pluraliste. Un programme riche et engagé. Canal B est bien sûr très heureuse de vous donner rendez-vous le 11 avril pour un plateau radio à 16h. C'est mercredi, on parlera bouquins, c'est Sozy Global qui nous en parlera tout à l'heure avec un bouquet garni où elle vous présentera Hors Champ par Marie-Hélène Lafont aux éditions Buchet-Chastel. Et puis on continue à découvrir ce fantastique album, le deuxième pour le duo Memorials, All Clouds Bring Not Rain. Et c'est vrai qu'il y a certains nuages qui ne sont pas annonciateurs de pluie, qui sont juste évocateurs de petites siestes somnolentes comme ça, à être bercés par un nuage de coton. Bon, ça nous arrive assez rarement d'être bercé par un nuage de coton, mais bon, on peut l'imaginer. Life Could Be a Cloud, c'est le titre de ce morceau qui ouvre l'émission. Bonne émission, justement.
Life could be a cloud high above the trees, in spite of the fact of gravity. Falling isn't free, it's a destiny. Landing isn't easy, it's an inevitability. Underneath the meteors, do you see it there with you? If the sky is clear enough, you'll find Venus with the moon. If you dare define your outline over mine.
Thank you.
life could be a cloud high above the trees, in spite of the fact of gravity. Memories and problems unfolding and undone. The time comes, the future ends before it has begun. We may not collide so often, living behind the moon. Time and space collapse and the future ends too soon. Define your outline over mine.
Aujourd'hui dans Le Grand Tout, je reçois Nicolas Philly. Bonjour Nicolas.
Bonjour Yann.
Qui ne va pas nous parler de théâtre aujourd'hui. Pourtant, tu as une casquette qui est celle de directeur du Théâtre de la Paillette et de la MJC aussi.
Tout à fait. Mais... c'est le même lieu. Hein. Enfin, oui. on a deux lieux, mais je m'occupe effectivement de la Paillette. J'en suis responsable avec une grande équipe hein, et tous très compétents, très professionnels. Et on a effectivement le lieu, le théâtre qui est connu... pour la plupart des Rennaises et des Rennais. Et on a aussi le lavoir, où on fait des pratiques artistiques amateurs avec nos 800 adhérents. Oui.
Les 11 et 12 avril, très prochainement donc, il ne sera pas question de théâtre, même s'il y aura des représentations peut-être, je ne sais pas, représentations d'organigrammes de la presse en France, ça sera montré forcément, ça sera évoqué obligatoirement. On retrouve ce festival des médias indés, le premier du nom, festival national des médias indés. Il y en a sans doute eu d'autres qui se sont produits dans d'autres villes depuis quelques années, mais on va revenir à la genèse de cette édition-là, qui va vous proposer des rencontres, une cinquantaine de médias présents, de La Déferlante à Mediapart, en passant, bon, je ne vais pas tous les citer, on en citera quelques-uns évidemment, oui. Par des médias locaux, ils sont quelques-uns, oui, Radio Syllab, Radio Canal B, on retrouve aussi l'Imprimerie Nocturne. On retrouvera pendant ces deux jours-là vraiment une concentration tout à fait différente de celle qui est à l'œuvre dans les médias en France. Il n'y aura pas aucun des 9 patrons de 90% de la presse qui seront là, hein, non, ils ne seront pas là. Vincent n'est pas là, Bernard n'est pas là, et tant mieux d'ailleurs, Mathieu n'est pas là non plus. Hein. On ne s'égare pas trop, on commence à la naissance de cette édition, Nicolas. Ça vous trottait dans la tête depuis combien de temps et qui sont les forces à l'œuvre derrière cette édition-là?
Alors nous, on a un projet triennal qui est à la Paillette, ça veut dire que tous les 3 ans, en fait, on revisite un petit peu, on re-questionne nos activités, nos objectifs. Alors, tout ça, ça fait un peu très techno, mais d'une certaine manière, c'est très important pour la vie démocratique d'une association de se reposer les questions régulièrement. Donc, on n'est jamais très sûr ou tout à fait sûr de ce qu'on fait, et c'est important. Donc on y réfléchit tous les 3 ans, et quand on a préparé le projet 2026-2028, on s'est posé la question de l'information et de l'accès aux médias, parce qu'on est une maison des jeunesses et des cultures. Et à ce titre-là, il fallait que on se pose la question de comment vivaient les jeunes, comment ils s'appropriaient en fait l'information, puisqu'on voit bien comment ça marche l'information. C'est pas d'une évidence d'y accéder, et en tout cas d'accéder à un pluralisme d'information. Donc on s'est interrogé sur les jeunesses, et on s'est vite aperçu qu'ils avaient des pratiques un peu particulières. Ici à Canal B, on fait l'éducation aux médias, donc on voit bien l'importance aussi d'amener les plus jeunes sur les médias et sur une bonne appropriation de ce qu'ils peuvent en faire. Et donc très vite on s'est dit il y a quelque chose à faire au niveau des médias, puisque on peut s'apercevoir que notre démocratie vit assez mal le fait que, comme tu disais, 90 voire peut-être plus, 95% des médias appartiennent aujourd'hui à des milliardaires. Les milliardaires ne sont pas là pour avoir des projets d'émancipation de la population, ce qui est notre cas. Et nous, en tout cas, on s'est dit qu'il fallait sans doute travailler cette matière-là. Très vite, on a creusé un peu la littérature existante. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits, qui dénoncent un peu la situation de la concentration des médias. Et très vite, on s'est aperçu aussi qu'il y avait de belles initiatives qui existaient pour accompagner la vivacité, le dynamisme, la création de médias. On a eu la chance de rencontrer assez vite, puisque tu posais la question de savoir qui portait un peu l'événement, donc il y a évidemment la Paillette, mais il y a également une structure qui s'appelle le Fonds pour une presse libre, qui est un fonds de dotation qui a été créé en 2019 par Mediapart, pour soutenir le développement des médias indés.
Et qui est aussi éditeur.
Oui, et qui vient de sortir d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Le Procès Bolloré, que j'ai eu la chance de voir avec en fin septembre, fin octobre, là, à Paris. Et c'est un texte de théâtre, alors sait-on jamais, peut-être qu'il sera monté à Rennes, en France, j'espère, et puis peut-être à Paillette, sait-on jamais aussi. Donc le Fonds pour une presse libre nous a écoutés et très vite, finalement, a ouvert son carnet d'adresses, nous a aussi finalement accompagnés pour qu'on puisse rapidement réfléchir aux actions qu'on pouvait mettre en place. On est très vite tombé dans cette histoire de rencontres, d'événements, de festivals. Et on a donc sollicité des médias à travers certains voyages un peu expérimentaux qu'on a fait. On est allé dans des événements, dans des festivals, on est allé à Fête de l'Huma, on est allé aux 5 ans de Splend, à Châteaulin, enfin bon. Et le retour était très positif. Donc on s'est lancé dans cette histoire de créer un événement qui puisse assurer la promotion des médias indés. Et très très vite, on s'est retrouvé avec énormément de demandes en France et le besoin d'un temps, d'un rendez-vous entre ces médias s'est pointé très très vite et on se retrouve finalement le réceptacle d'un moment qui était attendu par beaucoup de médias en France. Donc c'est vrai que c'est le premier festival national, même s'il y a déjà eu d'autres événements à caractère national hein, qui ont existé. Il y a aussi le festival, il y en a un à Bordeaux, il y a un autre à Lyon qui s'est créé en septembre. Lyon, il y a quelques événements. Simplement, l'originalité de ce festival ici à Rennes, donc les 11 et 12 avril, c'est qu'on aura une soixantaine de médias présents et une vingtaine de réseaux qui sera également présent.
Un village des médias indés, c'est comme ça qu'on va rentrer peut-être dans la Paillette, dans ces différents espaces, les 11 et 12 avril. Dacrimed, qu'on va traduire par Action Critique Média, et c'est vraiment le résumé peut-être de ce FMI, qui n'a rien à voir avec Christine Lagarde, évidemment. Peut-être que vous avez fait la blague exprès,
ouais, oui,
j'imagine. C'est pas le Fonds Monétaire International. Donc Dacrimed jusqu'à, et je vais jusqu'à la fin de cette liste, jusqu'à YouPress. Ouais, plus de 50 médias présents qu'il a fallu pas convaincre de manière très compliquée, j'imagine.
Pas du tout. Alors tu citais YouPress qui est un collectif de journalistes. Donc, par exemple, on a plusieurs collectifs de journalistes qui viennent également. YouPress en fait partie, mais Prenons la Une, We Report. Il y en a d'autres. Et puisque les collectifs de journalistes, c'est aussi une nouvelle façon de faire du journalisme et puis d'intervenir, de proposer en fait leur service à différents médias. C'est une nouvelle façon de s'organiser et de porter une voix indépendante et libre, même si souvent celle-ci peut entraîner une forme de précarité. En tout cas, on a des collectifs de journalistes qui ont répondu assez rapidement et évidemment les médias qui ont été partants très 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 vite. Alors on a finalement assez peu de médias du Grand Ouest parce qu'on celui qui est le plus connu, c'est Splend, que tout le monde connaît, mais on n'a pas pléthore de Splend en Bretagne. Hein, on a deux grands journaux, hein, dont un se revendique effectivement indépendance, qui est
Tu voudrais citer le Télégramme et Ouest-France, peut-être.
Voilà, et puis Ouest-France, qui est indépendant, on va dire, juridiquement, en tout cas, qui s'est organisé pour éviter un rachat par des milliardaires. Mais après, on pourra revenir, et puis pendant le festival ou ici à l'antenne, sur la définition du média indé, mais il y a encore d'autres critères qui définissent le média indé.
C'est pas seulement le financement.
Juridique n'est peut-être pas le seul. Toujours est-il que on a des personnes qui viennent un peu partout, hein, évidemment de la région parisienne, du nord, du sud-est, de Grenoble, d'Annecy. Voilà, donc ça va être un moment très riche. Et puis une grande majorité de médias qui sont tout de même issus du papier, hein, de la presse papier, avec parce que bon, on avait aussi la possibilité d'accueillir du youtubeur, youtubeuse, du podcast, et là on voit que on n'a pas l'espace pour le faire. Donc on a un peu privilégié quand même d'abord les supports papier, même si la presse en ligne est quand même représentée aussi.
David Dufresne, par exemple.
Ah ben oui, mais au poste, David, c'était le premier à avoir répondu favorablement, et là, malheureusement, le 11-12 avril, il est au festival littéraire à Metz. Il a dû se défausser au dernier moment avec grand regret, hein. J'ai la preuve, j'ai le courriel, j'ai la preuve de ses regrets, mais c'est vrai que David, oui, évidemment, quoi, aurait dû être présent. J'espère bien qu'il sera là pour la seconde.
Parmi les raisons qui font qu'il est nécessaire, sans doute, de s'organiser et d'organiser ce genre d'événement, il y a évidemment cette concentration des médias que tu as évoqué, qu'on a évoqué un petit peu juste auparavant, et puis aussi un déplacement, hein, de toute la société, on dirait, vers un prisme droitier qui, j'ai l'impression, est un peu poussé par les médias dominants, quand même. Et ça, c'est vraiment un pavé dans la mare de le balancer comme ça, mais c'est vrai.
Bah, pousser, moi je pense que c'est même peu de le dire, c'est totalement organisé et assumé d'ailleurs, hein, parce que là, bon, si vous voulez en savoir plus, il y aura une table ronde consacrée au cas Sterrin, et puis évidemment Bolloré ne manquera pas d'être cité. On a quand même notre représentant régional, on est bien obligé de lui rendre un hommage en quelque sorte. Les milliardaires ont pris la main depuis quand même quelques temps. Mais là, on voit que c'est totalement assumé et ce n'est plus caché. C'est un peu à l'image de ce qu'on voit avec Trump ou avec d'autres représentants politiques dans le monde. Ils ne se cachent plus de ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire pour eux, en fait, l'ennemi, très clairement, pour ces gens-là, c'est la démocratie. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les démocrates l'emportent. Donc, c'est clair et net, ils prennent possession des médias le plus possible et ils envoient des messages, et les messages qui servent leurs propres intérêts. Un milliardaire, un capitaliste libéral comme sont ces personnes-là, ce sont des gens qui ne cherchent pas le bonheur des citoyens et des citoyennes, ce sont des gens qui cherchent à s'enrichir et c'est le seul et unique objet de leur démarche. Donc effectivement, ils construisent un monde à travers ces médias-là où les gens s'opposent, sont pas solidaires, ils n'encouragent pas la coopération, ils vont encourager la concurrence, ils vont faire en sorte de donner des exemples de réussite individuelle en cachant toutes les réussites collectives qui peuvent exister dans notre société. Et donc, c'est vrai que c'est assez complexe de lutter contre ces milliardaires et ces médias qui sont posés. Mais moi, quand on regarde la télé, c'est pas très très compliqué, hein, ici on sait bien aussi que dans le monde de la radio, on peut retrouver les pendants aussi, hein, dans d'autres radios commerciales, quoi.
Bien sûr, parce qu'on sait que de toute façon, l'Empire Bolloré, il va de la radio à Europe 1, à la télé jusqu'à ses news.
Et le monde de l'édition.
Et l'édition aussi.
Puis c'est vrai que là, on se rend compte, bon, parce que là, aujourd'hui, il y a des personnes quand même qui écrivent là-dessus. Chapoutot, il écrit là-dessus, en expliquant bien quand même que on est dans un monde qui est quasiment comparable au début des années 30, où effectivement les milliardaires de l'époque ont organisé les pouvoirs et mis au pouvoir effectivement les gens qui pouvaient servir leurs intérêts. ils oublient que dans l'histoire, que au final, ils finissent quand même toujours aussi par le payer un peu. Ceci étant dit, pendant ces périodes sombres, ils continuent à s'enrichir en attendant des périodes toujours source de revenus pour eux.
On conseillera évidemment le livre L'Ordre du Jour d'Éric Vuillard qui montre évidemment ça, cette association entre les grands conglomérats financiers et puis la montée d'Hitler au pouvoir. On comprend bien évidemment que être un média indépendant, c'est à la fois une question de financement et de ligne éditoriale, mais pas que, hein, mais notamment ça. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement en tant que média indépendant? Et c'est un peu, est-ce que c'est des questions qui seront abordées? Comment est-ce qu'on peut lutter contre ce monstre qui écrase tout, qui est la presse dominante aujourd'hui?
Alors d'abord, je pense que, je suis pas un média, donc je pense que les médias répondront bien plus que moi de manière pertinente, en tout cas dans l'ensemble. On a une trentaine de rencontres, avec beaucoup de rencontres qui vont forcément aborder ce sujet du soutien, de la promotion des médias indés. Je pense que, comme dans tous les secteurs, les médias, même s'ils sont en concurrence, c'est comme ça, ils ont aussi leurs propres projets éditoriaux, donc ils vont pas parler de la même chose et ils vont essayer de capter aussi un public particulier, singulier, qui correspond en tout cas à ce qu'ils cherchent. Donc il y a une forme de concurrence. Il faut jamais oublier que cette concurrence, elle vaudra rien s'il n'y a pas de la coopération entre les petits. Et les petits, c'est quand même la grande majorité des médias indés. Aujourd'hui, tout à l'heure, je relisais encore le projet économique d'un média marseillais, hein, Mars Actu. C'est un média indé qui vit avec 5 000, bon, il leur faudrait 6 000 abonnés. C'est une ville, c'est 1 million d'habitants, Marseille. Bon, avec 6 000 abonnés, ils vivent à 70 euros par an. Donc, effectivement, ces personnes-là, ça reste des gens tout à fait engagés, qui peuvent vivre normalement de leurs médias, mais il faut qu'ils aient des abonnés et puis des gens qui les suivent. Mais ça reste des tout petits, quand même. C'est tout petit, ça. Donc, les petits, même quand ils sont en concurrence, il faut qu'ils travaillent ensemble et qu'ils échangent pour savoir, justement, quelle est la meilleure manière de vivre et d'être autonome par rapport, au reste du monde. Là, aujourd'hui, le modèle économique, c'est essentiel. Parce qu'il faut de la transparence aussi, hein. Il faut qu'on sache à peu près qui c'est qui finance quoi. Mais dans le modèle économique des médias, ce qu'il faut avoir en tête pour les auditeurs, les auditrices, c'est que l'indépendance économique d'un média, c'est le fait déjà d'avoir une variété de financement. C'est pas tellement d'avoir un financement public. On peut avoir un financement public, un peu de financement privé, un peu de publicité, un peu plus avec des dons. C'est la variété des financements qui fait qu'on n'est pas dépendant d'un seul financement. Et donc, toucher de l'argent de la ville de Rennes à Canal B n'empêche pas Canal B de faire des émissions qu'elle veut. Et par ailleurs, elle va faire quelques messages publicitaires à caractère non commercial. Elle va avoir probablement aussi des dons, des adhésions. Elle va mettre en place des prestations. Elle fait aussi de l'ESC. C'est ça qui rend un média indépendant. Et c'est pas le cas, effectivement, des grands médias qu'on peut voir à peu près sur toutes les chaînes de télé et des médias qui appartiennent au milliardaire, parce que le milliardaire, il enlève sa participation, le média n'existe plus.
Et malheureusement, ça va, et on va faire une petite pause avant de retrouver Nicolas Philippe pour continuer à parler de ce FMI, Festival des médias indés. Même si ce sont des médias qui ne sont pas dirigés par des milliardaires, s'ils sont commandités par l'État, on voit bien que ça peut être un peu gênant.
C'est
aussi
la même chose. Et puis on a aussi des médias qui ne vivent que de la publicité. Je pense que pour autant, je pense qu'on a des journalistes et puis des personnes qui y travaillent. Ils sont pas malhonnêtes non plus. Ils sont pas en train de se dire tiens voilà, on détourne de l'argent. Voilà. Mais ils vivent de la publicité. Quand on vit uniquement de la publicité, si c'est 100% des revenus, eh ben c'est quand même compliqué de dire qu'on est à 100% indépendant. On sait bien qu'on peut pas, et quand bien même d'ailleurs, on parlait des grands journaux régionaux qu'on a, si on a si peu d'enquêtes sur l'agroalimentaire en Bretagne, c'est peut-être s'expliquer aussi par la proportion de publicité qu'on peut trouver dans un journal papier issu de l'agroalimentaire. Donc ça fait pas des journalistes qui travaillent des gens mauvais ou des gens qui trichent. À un moment donné, ça remonte aux rédactions, aux chefs de rédac ou finalement aux pilotes qui sont dans l'avion, c'est-à-dire les actionnaires ou ceux qui détiennent des parts de la société, quand bien même celle-ci peut vivre de manière très différente et ne pas appartenir qu'à une seule personne.
On va donc faire une pause avant ça. Je vous cite quelques-uns des titres traités récemment sur Canal B sur le plan information locale. Quelles sont les conséquences du dérèglement climatique en Bretagne? Comment les algorithmes impactent les trajectoires socio-économiques des Français et des Françaises? Il y a eu des sujets aussi sur les enjeux des pratiques du sport en milieu urbain. Et puis aussi la montée du masculinisme. Quel danger pour la santé sexuelle? Des sujets qu'on n'entend pas beaucoup traiter sur France Info, je trouve. Et là, on est dans une radio d'État. Hein, je le dis, et on n'entend pas beaucoup parler de ces sujets-là non plus dans le Figaro ou chez Europe 1, ça c'est sûr. On fait une pause, on nous cache tout, on ne nous dit rien, ça c'est ton choix. C'est pas Canal B, hein, c'est pas le FMI, c'est les autres, forcément, c'est les autres. Je ne vais pas te demander pourquoi ce choix, il parle de lui-même, je crois.
On ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Savoir pourquoi Napoléon mettez la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuchet, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache caché, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous cache tout, on nous dit rien. En plus, on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
On entendait bien sûr Jacques Dutronc depuis 1966, je crois, la date de la sortie de cette chanson. Je crois que tout n'a pas changé, ou même rien n'aurait changé, comme chantaient aussi les Poppies. On nous cache tout, on nous dit rien, sauf évidemment quelques-uns qui ont envie de lever le voile sur des choses qu'on cache un peu trop dans les médias de masse, les médias dominants. Il est bien question de médias indés dans cette première édition du FMI, les 11 et 12 avril. Ça se tiendra à la Paillette et on y retrouvera plus de 60 participants. Alors il y aura des mini-stands, attention, hein, il y aura peut-être beaucoup de monde devant le stand de Basta et peut-être moins devant celui de Canal B, non je sais pas. En tout cas on va se partager l'espace entre les 60 médias présents. Nous proposerons un plateau radio le samedi à 16h, mais bien sûr vous aurez forcément envie d'aller peut-être rencontrer des journalistes d'Afrique 21, de parler avec des gens qui travaillent à l'Humanité. Tu parlais de la fête de Lima où vous êtes rendu. Bon bah ils étaient présents ceux qui organisaient. Vous aurez peut-être envie aussi de taper la discute avec la revue Dessinée ou avec les cahiers personnes. Bon, du gros, du petit, voilà, de l'indépendant en tout cas, ça c'est sûr, et pour le plaisir de l'information, et pour aussi se prémunir contre des risques à venir, des risques forts pour la démocratie, contre la démocratie je dirais même plus, d'ailleurs vous savez qu'il y a une élection présidentielle l'année prochaine, et que bon voilà, on l'a vu déjà lors des élections municipales tout récemment, les médias dominants, eux, sont en ordre de marche là. Ça, ils sont prêts. Ils sont prêts à envoyer des infos pas toujours bien vérifiées, parfois complètement fausses. C'est vrai. On est un peu dans l'ère de la fake news. Quand même, les médias indépendants, eux, arrivent à se prémunir de ça. Donc, c'est possible finalement d'échapper aux fake news.
Oui, oui. Et puis, il y a des règles qui existent. Pas toujours très connues, évidemment, des citoyens et des citoyennes. Mais
tu parles de la déontologie, par exemple.
Bien, oui, oui. Il y a quand même. Bon, par exemple, quand on a un syndicat sera présent, le SPIL, qui est un syndicat qui œuvre justement, syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, qui a à peu près 300 adhérents, médias adhérents. Ils ont des définitions très très claires de ce que ça veut dire être indépendant pour un média, et notamment ils insistent sur la question du projet éditorial. Il faut avoir des contenus originaux, c'est-à-dire pas de la copie de copie de copie. Il faut vérifier les sources, les informations, il faut les recouper, il faut les traiter, il faut les mettre en forme. C'est pas un copier-coller comme les GAFAM le font à travers des sites d'information qu'on a des flux d'informations qui viennent d'ailleurs d'autres médias la plupart du temps et qui sont pas vérifiés. C'est des machines qui travaillent derrière. Donc c'est un sujet qui sera abordé la place des GAFAM. Tu parlais d'Acrimed tout à l'heure. Acrimed, c'est une association rennaise, enfin nationale, mais c'est à Rennes. Hein, donc ils ont leur siège ici. Donc c'est aussi la critique des médias, mais au regard du débat public. C'est-à-dire, voilà, la place des médias et la place du débat public dans ces médias-là, on se demande où elle est la place du débat public et la sincérité des propos. Donc on va avoir une très très grande variété de médias. Tu parlais tout à l'heure des pratiques sportives qui avaient été abordées dans le cadre du projet Canal B. On a un média qui sera là, qui s'appelle Vertige Média. Donc c'est à travers la pratique de l'escalade. Comment on peut aborder cette pratique-là à travers ces enjeux sociaux et politiques. Et là, dans ce média-là, on parle vraiment de société, quoi. Et on interroge cette pratique-là à travers des tas de questions de société qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est, on peut avoir des magazines, des revues qui seront présentes et qui sont vraiment très très offensives sur des sujets peu ou pas abordés dans les médias dominants, dans les médias mainstream, et en tout cas qui se battent pour avoir un vrai travail journalistique. On n'est pas sur des faux semblants ou de l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui des aides à la presse qui sont données au niveau national pour des médias qui sont en partie, voire quasiment complètement réalisés via l'IA. Et ce sont des médias qui vont toucher des aides de la presse au niveau national. C'est-à-dire, on vérifie même pas s'il y a des journalistes derrière. Sous prétexte qu'il y a tant de diffusion papier, ainsi de suite. Les aides nationales, elles vont essentiellement à la presse papier. Et aujourd'hui, on vit dans quel monde? On vit dans un monde numérique. Et donc le numérique est en souffrance en termes d'aide nationale, alors même que c'est là que ça se passe, y compris pour les jeunes. Hein, y compris, je dis pas seulement, hein, parce que je pense que le lectorat de Mediapart n'a pas 18 ans non plus. Je pense qu'il est un peu plus large.
Et mais, il est moins abonné à TikTok aussi, peut-être.
Voilà. Non, mais c'est vrai que on voit bien que ces modèles qui ont eu le mérite d'exister, qui ont toujours le mérite d'exister, la presse papier, et c'est très important que ça existe encore. L'imprimé n'a pas dit son dernier mot. C'est le sujet d'une rencontre. Qui est porté notamment par le syndicat de la presse Papareil, qui regroupe une trentaine de médias et qui sont effectivement pour la plupart d'entre eux en support papier.
J'étais en train de compter en même temps que tu finissais ta phrase le nombre de rencontres différentes. Il y en a plus d'une quinzaine en fait, hein, sur
ouais,
les
une
deux
trentaine,
jours.
Trentaine,
plus d'une quinzaine, effectivement.
5 temps forts et 7 ateliers pro.
On s'intéresse peut-être à un aspect de ces rencontres-là. Cette première rencontre, une des premières, ce n'est pas la toute première le samedi, on voit bon des visages qu'on connaît déjà, hein, en tout cas ceux de Guillaume Meurice, de Louis Plenel, on les connaît. Peut-être on connaît moins Julie Lallouette Geffroy, mais pourtant elle est connue quand même. Évidemment, sans les médias indépendants, vous ne l'auriez pas su. Là, on voit que ces médias qui, avec des moyens souvent moindres, évidemment, que la presse dominante, les grands médias dirigés par des gens qui sont financés par des milliardaires, eh bien, il y a des enquêtes d'utilité publique qui sont faites par des petits qui se donnent la peine de les chercher, ces infos-là, quoi.
Oui, et puis qui se battent bien, et puis qui, alors pourquoi c'est reconnu à un moment donné des médias comme Splend en Bretagne? Parce que ils ne sont pas juste là pour dénoncer, ils font un boulot journalistique. Ils travaillent, ils enquêtent, ça dure des mois et des mois. À un moment donné, le lectorat, il le sait, ça. Quand on lit, on voit bien qu'il y a eu un travail. C'est pas un papier avec 200 signes. C'est pas une reprise d'une dépêche de l'AFP à moitié transformée. C'est pas quelque chose qui a été généré par des machines. Ce sont des personnes qui vont sur le terrain, qui vont aller voir un agriculteur, une agricultrice, un chef d'entreprise. Ils vont aller voir des gens, les interviewer, vérifier, chercher les documents, travailler sur des rapports existants. Et finalement prendre le temps de l'enquête aussi. Et ça, c'est vrai que aujourd'hui, on est toujours un peu dans l'actu, dans la réactivité, tout ça. C'est bien d'être au courant de ce qui se passe tous les jours. Mais si c'est pour entendre le flot de conneries de Trump, parce que je suis plus au courant de savoir que on a volé un camion de Kit Kat,
que de connaître la qualité de l'eau juste à côté de chez toi, quoi.
Ouais. C'est des choses qui sont complètement incroyables, quoi. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir toutes ces infos qui se déversent là en permanence, si on n'est pas capable d'avoir un petit peu de recul par rapport à notre environnement de proximité. Splend dévoile, évidemment, avec intérêt pour les Bretons, toutes ces enquêtes. Mais on s'aperçoit qu'on a d'autres médias qui, finalement, existent aussi dans d'autres régions de cette manière-là. On a un débat, par exemple, qui concerne l'investigation locale, et on aura la Topette, qui vient de Maine-et-Loire, le Poulpe, qui vient de Normandie, Facto, qui vient du Limousin. Facto, c'est un peu le pendant, on va dire, de Splend. C'est plus jeune, mais voilà. Ce sont des médias qui vont travailler de la même manière, donc on a quand même une vraie dynamique en France, là, aujourd'hui, pour que se produise une autre information. Il faut simplement réussir à la faire connaître, hein, le plus possible. C'est aussi, c'est l'objet de l'événement. On sait qu'à Rennes, on a un public quand même qui va être attentif à ces problématiques-là. Mais l'événement Rennais, s'il est destiné évidemment aux Rennaises et aux Rennais, a aussi pour objet d'être un moment important pour ces médias-là, et puis pour au niveau national, que ce genre d'expérience puisse se reproduire. On n'a pas, nous, forcément, envie de devenir le festival où il y aura un jour 500 médias. C'est pas ça le problème. Ça se fera probablement par Rennes, d'ailleurs. Ça serait probablement repris par une agglo plus importante que la nôtre. Ceci étant dit, on peut encore ouvrir à de nouvelles thématiques. Moi, je connais, par exemple, pas mal de médias indés dans la presse enfance-jeunesse, et qui sont quand même bien plus intéressants, instructifs, qui vont éveiller très rapidement les sensibilités positives chez les gamins, et les amener à une meilleure citoyenneté de leur part très très rapidement, que l'espèce de soupe là qu'on voit dans la presse jeunesse. J'ai pas cité les éditeurs, mais enfin bon, voilà, qui sont juste là pour proposer un petit temps de loisir, d'amusement aux jeunes. Et pour autant, quand on a un média indé consacré à l'enfant jeunesse, on peut tout à fait aussi faire quelque chose de plus dynamique pour le cerveau de ces gamins-là que passer juste un petit moment de 2 minutes en coloriant des trucs débiles, quoi. Donc ça sera peut-être pour la deuxième édition, si on arrive à avancer, à ouvrir à d'autres médias. Mais là, aujourd'hui, on peut voir qu'il y a tout un tas de problématiques. Toutes les problématiques qui sont abordées là, pendant ce festival-là, ce sont des problématiques de société qu'on connaît toutes et tous. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se dire, tiens, je vais juste, à travers le festival, découvrir tel ou tel média qui vient de tel coin. Dont acte, évidemment, c'est super important, et c'est aussi l'occasion de s'abonner, de faire des dons, de les soutenir. Ceci étant dit, vous avez aussi un moment privilégié pour faire du débat de société. Alors, on est après les municipales, l'année prochaine, on sera avant les présidentielles. Donc, je pense qu'il y aura... Et l'année suivante, on sera avant les régionales et les départementales. Donc, c'est un rythme qui a été choisi, qui correspond à notre projet à la paillette, mais c'est un rythme qui est choisi aussi parce que cette question d'accompagnement à la citoyenneté des habitants et des habitantes, d'éveil aussi des plus jeunes, elle se fait en parallèle de ces 3 temps électoraux majeurs en France, quoi.
J'ai peut-être mal lu le programme sur le site de La Paillette, mais en tout cas, si je vois bien qu'il y a de très nombreux invités, évidemment, de la presse web, de la presse papier, il y a aussi des médias nouveaux, les podcasts qui ont vraiment plus que le vent en poupe, et certains font du journalisme véritable. Je peux penser par exemple au travail que mène Delphine Saltel dans son podcast pour Arte Radio, Vivons heureux avant la fin du monde. Vous vous êtes posé la question d'en inviter des médias de ce type-là ou finalement vous n'avez pas pu ?
Oui, non, non. Moi je me suis posé la question parce qu'en plus, j'ai une histoire particulière avec la radio déjà.
Bon. Full disclosure maintenant, il fallait le dire un moment, quand même, Nicolas Fili, notre interlocuteur aujourd'hui, a été administrateur de Radio Vous Écoutez à l'instant, a fait une émission L'Autre Idée aussi, avec quelques autres bénévoles, et a un goût particulier pour la radio associative.
Oui, tout à fait. Et puis, j'avais, dans une autre activité que j'ai eue auparavant, avant de travailler à La Paillette, j'étais chargé d'accompagnement de projet, donc je me suis baladé un petit peu partout. J'ai eu la chance d'accompagner le festival à Brest, Longueur d'onde, à une époque, ça remonte à quelques années. Pourquoi on n'a pas mis un accent particulier sur le podcast ? Parce que d'abord, il faut énormément de temps pour défricher. Ce temps, on l'avait pas. Hein. Il fallait déjà défricher l'existant en papier, un peu en numérique, et voilà. Et on n'est pas arrivé au bout. Et donc sur les podcasts, on a Longueur d'onde qui fait déjà un super boulot à Brest en Bretagne. Et c'est vrai que si on devait travailler sur la question du podcast, je me rapprocherais forcément de Longueur d'onde pour dire avec eux qu'est-ce qu'on peut faire, comment vous pouvez nous accompagner, qu'est-ce qui serait intéressant à faire, comment on peut mettre tout ça en valeur, voire même comment vous pouvez mettre en valeur votre propre festival dans le nôtre. Ce serait peut-être plutôt comme ça que Et ceci étant dit, on a aussi, à travers les collectifs de journalistes ou les pratiques du journalisme, qui seront pas mal abordées aussi en termes de thématiques, des professionnels qui aujourd'hui vont travailler effectivement pour le papier, pour l'image, pour le son. Donc ils sont multicartes, hein, ils le font avec talent. Et souvent, ils ont cette capacité à produire un podcast à côté d'une autre pratique professionnelle, l'écrit, ou de l'image. Et donc tout ça s'entremêle au fur et à mesure. On va avoir beaucoup de podcasts. Je pense à Lisbeth par exemple qui t'adresse. Tu parlais de David, mais il y a
David Dufresne, oui, pour ceux qui étaient pas tout à l'heure.
Il y a des personnes qui sont spécialisées, mais on voit même Mediapart était spécialisé sur l'écrit, mais a développé chemin faisant du YouTube, va développer. Donc tout ça commence un petit peu à se développer de manière transverse, de plus en plus, et je pense que les nouveaux médias ont cette approche transversale. Donc c'est peut-être l'approche transversale qu'on a envie de mettre. Peut-être de manière un peu en valeur de qui ferait la singularité de notre événement, plutôt que de se concentrer uniquement sur le podcast. On a une journaliste qui vient, qui s'occupe d'un podcast bretonne et féministe, qui en même temps intervient pour un collectif de journalistes. Et c'est vrai que c'est débordant d'initiatives, ça donne beaucoup de joie, parce que quand on fait des kilomètres, par exemple quand on part en vacances, on fait 2, 3 000, 4 000 kilomètres, alors c'est pas toujours qu'il faut conseiller aux gens, mais quand on se promène comme ça, on écoute beaucoup de podcasts, par exemple. Moi j'en écoute toute l'année. Et cette grande variété, cette richesse-là, nous apporte beaucoup d'informations, beaucoup de plaisir, des nouveaux tons aussi, des nouvelles façons de rapporter des choses. Cet été, je me suis passionné avec un podcast avec mon ami qui s'appelle Vietnam sur Lot, que je ne peux conseiller. C'est en 5-6 épisodes et ça nous fait découvrir l'histoire des personnes qui sont venus donc d'Asie dans les années 70 et qui ont atterri dans le Lot et le camp existe encore 40 ans après. On est allé le voir ensuite, ce camp-là. Voilà ce que ça apporte et ce qu'on n'aura pas effectivement en écoutant France Info.
Tu le dis, il y a un festival de création sonore et radiophonique et de podcast, c'est Longueur d'onde à Brest. Donc voilà, ici c'est réel, festival des médias indés. On va pas s'arrêter sur toutes les rencontres. Allez faire un tour sur le site la-paillette.net pour avoir tout ce dossier sur le FMI les 11 et 12 avril prochain. Canal B y sera le samedi 11, ce sera de 16h à 17h30. Peut-être quelques derniers mots autour, pourquoi pas, je sais pas, de cette exposition qui a déjà commencé du côté de La Paillette avec la revue dessinée et puis Topo et puis quelques infos que tu veux donner en plus si tu veux.
Bah oui, donc là en tout cas les trois expos, parce qu'on a une expo revue dessinée, une expo topo, sont faites pour les plus jeunes, c'est où on apprend aussi beaucoup de choses quand on est grand, qui nous explique en fait toute la méthode et les outils de travail en fait utilisés pour réaliser les revues dessinées et topo. Et puis cette expo est au Lavoir, hein, elle est en accès libre dès à présent et jusqu'au 17 avril. Et une expo également plus ancienne, mais qui a encore tout son intérêt, qui retrace un petit peu l'histoire du fanzine, du Do It Yourself, qui avait été créé à l'époque avec les établissements Bolek, avec notre ami Alain Faure. Et donc c'est dans le hall du théâtre. C'est une très belle plongée dans l'histoire en fait des premiers médias indés, peut-être vraiment vraiment indés sur le côté, qui ont pu exister à cette époque-là. On a un café média aussi qui va être proposé par Un Bout des Médias, qui est une organisation comme d'autres, hein, comme Cop Média ou Médiane ou encore le Fonds pour une presse libre. Ce sont des réseaux d'accompagnement aux projets et aux initiatives de médias. Donc ils les soutiennent, ils les financent, ils leur prêtent de l'argent et puis évidemment les conseillent. Donc ça, ce sont Un Bout des Médias fait un rendez-vous citoyen, c'est une tournée en France comme ça, donc ils s'arrêtent là, ils en profitent pour rencontrer le public du festival. Et puis à côté de ça, on aura aussi, on va déployer tout le long du Lavoir, des bancs, des tables et des barnums. C'est pas innocent de le dire, mais ça fera quand même
un vrai cirque,
de linéaire pour pouvoir discuter, échanger, s'asseoir, parler avec les pros qui sont là, et puis parler entre personnes qui sont venues voir l'événement, quoi, entre amis, découvrir des choses et continuer les discussions, parce que la particularité des rencontres qu'on a, c'est qu'elles font en dehors des temps forts, elles font 40 minutes. Donc on n'a pas le temps de s'endormir, donc il n'y a pas d'excuse, c'est-à-dire que même si une rencontre est à 14h30, on peut y aller, hein, même si on a bien mangé, on s'endormira pas. C'est 40 minutes et c'est toutes les heures, donc c'est très rapide. Franchement, il y a du sujet, on ne sait pas trop quoi en penser, et ben on y va, ça dure un peu plus d'une demi-heure, et puis c'est fini. Donc on sortira de là de toute façon un peu plus curieux, et voire même peut-être quelquefois un petit peu plus connaisseur d'une situation, d'un environnement, d'une problématique, voilà.
Le FMI, 11-12 avril, à Rennes, à la Paillette, 2 jours pour défendre la liberté d'informer et la presse indépendante. Mais ça va coûter un fric dingue, un pognon dingue, ça, non?
Même pas.
Pour le spectateur, pour le participant?
Même pas, c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde. On a 2 bars qui vont nous faire un peu de rentrée. On a le Fonds pour une presse libre qui nous apporte un financement qui est important pour l'équilibre du projet. Et à côté de ça, on aura une plaquette qui sera l'objet un peu indispensable pour se retrouver dans les lieux et dans la programmation. Et cette plaquette, elle est à prix libre. Donc on pense que comme l'entrée est gratuite, les personnes seront citoyens et citoyennes et seront encouragées le festival en mettant un petit billet pour la plaquette. Mais c'est absolument pas obligatoire. Si on n'a pas les moyens, on vient au festival et on s'installe. Et on n'a même pas obligation d'aller au bar. Faut pas s'inquiéter pour ça.
Merci Nicolas. On termine avec un autre morceau musical. Là, tu peux nous le présenter celui-ci si tu veux bien.
Oh bah c'est Thank You Satan. La version de Dionysos, bon, alors on aurait pu faire celle de Léo Ferré, mais alors on dit, il a quel âge le gars, là, il a passé du Dutron, du Léo Ferré, mais on a l'âge qu'on a. Par contre, j'aime beaucoup la version de Dionysos qui était sortie sur une compile avec Léo là, à cette époque-là, et je la trouve très très bien produite, très bien orchestrée, et c'est vrai que ça redonne, je trouve, une nouvelle lecture à la composition de Léo Ferré.
Parfait, merci beaucoup et bon festival.
Merci.
flamme que tu allumes au creux d'un lit pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour les pétales anonymes comme la rose du matin. Thank you Satan. Pour le voleur que tu recouvres de ton chandail tendre et rouquin, pour les portées que tu lui ouvres sur la tanière des rupins, pour le condamné que tu veilles à l'abbaye du Mont en l'air, pour le rhum que tu lui conseilles et le mégot que tu lui sers. Thank you, Satan. Étoile que tu sèmes dans le rebord des assassins, et pour ce cœur qui bat quand même dans la poitrine des putains, pour les idées que tu maquilles dans la tête des citoyens, pour la prise de la Bastille même si ça ne sert à rien.
Qui s'exaspère à retrouver le doux agneau, pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margaux, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you Satan.
Pour la sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans croire ni rien sauf pour la frime, un chien croque-mort du hasard. Pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents, quand poussent dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Pour la péché que tu fais naître au sein des plus raides vertus, et pour la nuit qui va paraître au coin du lit où tu n'es plus, pour les ballons que tu fais pète dans l'après comme des moutons, pour ton honneur à ne paraître jamais dans la télévision. Pour tout cela et plus encore, pour la solitude des rois, le rire à la tête de mort, le moyen de tourner la loi. Et qu'on ne me fasse pointer et que je chante pourtant bien. Dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens. Thank you, Salon. You are the bird man. Thank you, Salon. You'll make me bird man. Thank you, Salon. Thank you, Salon. Thank you, Salon. Thank you.
On est mercredi et le mercredi dans Le Grand Tout, c'est un plaisir de retrouver Soizig Le Bail. Bonjour Soizig.
Bonjour Yann.
Qui nous parle bouquin aujourd'hui, c'est la chronique Bouquet Garni. Alors ça c'est quand c'est ni pour la jeunesse, ni du livre de poche, c'est des nouveautés en somme, hors champ, par Marie-Hélène Lafont. C'est paru aux éditions Buchet-Chastel.
Si un jour tu veux arrêter tout ça, tu peux compter sur moi. Claire le dit à Gilles, son frère, chaque fois qu'elle revient à la ferme. Mais Gilles ne l'entend pas, ne l'écoute pas, il est absent au monde et à lui-même aussi, inatteignable. Depuis l'enfance, leur mère trop occupée par le travail domestique et le coup de main à la ferme, le père brutal, borné, violent, terrorise la maisonnée. Alors vite, Claire va prendre la tangente. Bonne élève, elle quitte la maison, elle fait des études. La voilà professeure à Paris. Gilles, lui, introverti, ne partira pas. Son père l'a décrété, il devra tenir la ferme, mais jamais la diriger. Son père, toujours sur le dos, qui n'est pas à une humiliation près. Le garçon se construit une carapace si épaisse qu'il ne parle plus. Il n'aime pas la ferme, il n'aime pas sa mère, il déteste son père. Bien sûr, Claire revient un peu l'été, un peu pour les fêtes. Elle s'absorbe dans le travail ménager, tente d'approcher Gilles, de le faire parler sans grand succès. Bientôt, elle achète une maison à elle, pas très loin. Il viendra déjeuner chez sa sœur, une bouffée d'air, mais il retourne à la ferme. Les temps changent, les règles aussi, et on ne peut plus fabriquer le Saint-Nectaire à la ferme. Un camion passe tous les jours ramasser le lait. Il faut produire une certaine quantité pour avoir le contrat, et que le lait soit parfait, sinon la coopérative le refuse. Le père ne décolère pas, Gilles courbe les épaules. L'auteur alterne les chapitres à la troisième personne du singulier et on y voit Claire, ses interrogations, sa sensation d'impuissance devant ce frère qu'elle ne peut pas aider, puis Gilles qui n'a jamais rien choisi de sa vie. La distance créée par le choix du narrateur extérieur opère une densité du récit. Pas de sensiblerie ici, mais beaucoup de sensibilité. L'écriture de Marie-Hélène Lafont est d'une sobriété exemplaire. Elle qui laboure depuis si longtemps ces terres rurales, ces vies d'agriculteurs et d'agricultrices, le territoire puissant et la Santoire, la rivière qui trace la frontière. Hors champ est son 11e roman et j'avais envie de vous en lire un peu pour que vous puissiez entendre la voix de Marie-Hélène Lafont. Il entend la voix de la mère. Elle est en bas, dans le couloir, et elle l'appelle. Elle lance son prénom, une fois, deux fois. « Gilles, Gilles !» Et elle s'est dit « C'est l'heure !» Elle le répète. Ensuite, c'est « Oh oh !» Comme avec l'âne, ou une vache, une bête, qu'il s'agit de faire avancer ou se lever quand elle est couchée, pour qu'elle sorte de l'étable ou du pré. Certains jours d'hiver les plus noirs ou en pleine fenaison, quand on est complètement débordé, elle ne dit plus son prénom. Elle ne dit pas autre chose que « Oh oh !» Il sait que c'est l'heure. L'heure de quoi ? Pourquoi ? Il a l'heure dans le ventre comme un coup de poing. Il dort par morceaux et se lève enragé. L'année dernière encore, si elle ne percevait aucun mouvement à l'étage, après deux ou trois appels, la mère montait lentement en se tenant à la rampe, traversait le palier, frappait à la porte, l'ouvrait, passait la tête ou entrait dans la chambre, poussait son corps et le plantait là, entre le lit et l'armoire, sans avoir allumé aucune lumière, ni dans l'escalier, ni dans la pièce. Maintenant, depuis qu'il s'est battu avec le père dans la cuisine sous ses yeux, elle ne monte plus, elle n'entre plus. Elle ne peut plus faire comme si ça n'était pas arrivé, ou comme si ça n'arriverait qu'à l'étable, hors de sa vue, comme si le trou dans la porte de la salle de bain n'existait pas. Voilà un texte radical.
Hors champ par Marie-Hélène Lafont, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Et puisqu'on le retrouve très bientôt, week-end prochain, à Becherel pour la fête du livre, Hervé Letellier, eh bien tu nous lis encore un de ces contes liquides de Jaime Montestrella. C'était paru en 2024 chez Calimard.
Sur l'île de Taoporo, les tribus des Taos et des Poros cohabitent, non sans friction. Quand Taos et Poros se font la guerre, les combattants de chaque tribu exécutent la danse de la peur qui vise à favoriser leur fuite au combat. Entre les requins, les jaguars et les moustiques, la vie est bien assez dure sur Taoporo pour qu'en plus, les hommes y meurent sottement.
Eh oui, l'éloge de la fuite, pourquoi pas. Merci Hervé Letellier, merci Soizig. Je rappelle qu'on se retrouve, Canal B sera en direct le 6 avril, lundi prochain, en lundi de Pâques, en direct de la Maison du Livre pour vous faire vivre une partie de la fête du livre. Et quant à nous, on se retrouve mercredi, comme d'habitude, pour nous parler bouquins. Merci Soizig, à bientôt.
À mercredi.
En illustration musicale de cette chronique Bouquet Garni numéro 20, c'était NLF3 avec le titre Fields. On se retrouve jeudi pour une nouvelle émission Le Grand Tout. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Canal B. Retrouvez playlist et écoute sur canalb.fr. L'émission, je vous le rappelle, est rediffusée du mardi au samedi matin de 9h à 10h. Ciao !